territoire.
Province du Nord-Kivu, plus de 20 personnes tuées dans la nuit de mardi à mercredi dernier. C'est le bilan des nouveaux massacres perpétrés à Mayangose et Kibidioué dans les territoires de Beni par des hommes armés. Comment analyser ce énième massacre dans les territoires de Beni? Nous en parlons avec Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord-Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Révérend pasteur Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beni au Nord-Kivu. Bonsoir, révérend pasteur Gilbert Kambalé.
Bonsoir.
Et Nikez Kibelbel, directeur du journal Les Coulisses, basé à Beni au Nord-Kivu. Bonsoir, monsieur Nikez Kibelbel.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Massacre de plus de 20 personnes au village Mayangose Kibidioué, territoire des Beni, dans la nuit des mardis à mercredi dernier. C'est le énième massacre perpétré dans les territoires des Beni depuis le mois d'octobre dernier. Martial Papimoukeba nous fait le point de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il s'entretient avec Berry Franklin Louchaka.
Papi Martial Moukeba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Beni. Alors, comment s'est réveillée la ville de Beni aujourd'hui?
Il faut dire que deux jours après un nouveau massacre d'une vingtaine de civils à Mayangos et Kibidioué, la ville de Beni s'est réveillée sous un calme. Boutiques, magasins, écoles, marchés et petits commerces ont ouvert et fonctionné normalement. Mais il faut signaler l'arrivée depuis hier mercredi à Beniville du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, qui est accompagné de plusieurs membres du Conseil provincial de sécurité, est en mission dans la zone pour définir des nouvelles stratégies en vue d'empêcher de nouveaux massacres des civils à Beni. Et c'est jeudi, il a eu des consultations avec les responsables des FRDC, de la police, ainsi que des différents groupes sociaux.
Mais entre-temps, papy, qu'en est-il des massacres finalement?
C'est aux environs des 23 heures locales, mardi dernier, que des hommes armés ont fait incursion à Mayangos Kibidioué. Selon des sources locales, arrivés dans ces villages, ces assaillants se sont attaqués à la machette aux populations civiles et tué plusieurs d'entre elles. Les derniers bilans nous communiqués cet avant-midi par le gouverneur du Nord Kivu fait état des 25 personnes tuées. La société civile du Nord Kivu accuse les ADF d'être auteur de ce nouveau massacre à Beni. Elle encourage les FRDC et la MONUSCO de poursuivre sans relâche les opérations de traque des rebelles ougandais pour leur neutralisation.
Mais est-ce qu'il y a déjà des mesures sécuritaires qui sont annoncées dans la foulée?
Il faut d'abord préciser que ce nouveau massacre est intervenu 3 mois après une accalmie à Beni et 2 semaines seulement après la levée du couvre-feu instauré depuis le mois de novembre de l'année passée par les autorités pour faire face à l'insécurité à Beni. Même si jusque-là, aucune mesure n'est annoncée par les autorités, des sources sécuritaires révèlent que de nouvelles stratégies sont déjà mises en place par les FRDC et la police pour empêcher de nouveaux massacres à Beni. Et cet avant-midi, le gouverneur du Nord Kivu a dit à Radio Okapi être opposé à toute idée d'instauration des nouveaux couvre-feux dans la zone comme stratégie d'empêcher le carnage des civils à Beni.
Merci beaucoup, Papi Martial Moukeba. Vous êtes notre correspondant à Beni.
Merci, Berry.
Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Plus de 20 personnes ont été tuées à Beni. Et comment vous analysez ce énième massacre?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les intervenants de ce débat ce soir. Vous savez que nous avons en face de nous des rebelles ougandais alliés qui sont des terroristes. Et les terroristes ne s'avouent toujours pas vaincus. Vous vous rappelez, en France, il y a le phénomène Charlie Hebdo avec 17 morts à moins d'une journée. Au Nigeria, tous les jours, le Boko Haram avec 120 morts chaque jour. Donc vous comprenez que les terroristes, comme c'est le cas à Beni, depuis l'année dernière, en fait, étaient totalement défaits par les opérations qui avaient été lancées conjointement entre les éléments des FARDC et la MONUSCO. On a même découvert un des grands camps des rebelles ou des ZDF dans une localité qu'on appelle Mavoume, qui n'avait jamais été découverte depuis tout ce temps. Et cette localité et cette base des IDF étaient totalement détruites. Et à mon avis, je crois que ces éléments-là qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus quoi manger, qui n'ont plus quoi vivre, doivent être en errance. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent, à mon avis, à Mayangos. Mayangos, c'est une grande étendue où la population de Beni cultive les riz et beaucoup d'autres produits vivriers. Et selon les analyses que nous avons pu faire avec et les militaires et les policiers, et les personnalités que nous avons rencontrées, c'est que ces gens sont à la recherche de vivres, des médicaments pour s'approvisionner, parce que les FRDC, avec les éléments de la MONUSCO, ont réussi effectivement à les déstabiliser dans toute la partie est de la route qui va de Beniville jusqu'à Erignetti. C'est la première analyse que nous venons de faire avec tous les services spécialisés. Et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, il y a déjà un contact entre nos forces armées et les groupes rebelles. Et si bien que 17 personnes viennent d'être libérées ce soir, 17 personnes vivantes qui avaient été emportées pour transporter, bien sûr, le butin de ces rebelles ougandais, c'est une grande satisfaction qu'on ne va plus compter le nombre de morts parce qu'on craignait que ces 17 autres personnes ne soient tuées par ces rebelles. Donc c'est grâce à l'intervention de nos forces armées que ces 17 personnes viennent d'être libérées ce soir des mains des rebelles.
Oui, monsieur le gouverneur, vous appelez la population à collaborer avec les FRDC, la police et les services de sécurité. Et nous savons que ce n'est pas la première fois que vous lancez ces messages. Peut-on dire que, après évaluation, vous vous êtes rendu compte que cette population ne collabore pas assez avec ces différents services?
Non, je ne pense pas que ce soit l'interprétation que vous donnez à cet appel. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que la collaboration entre la population, les forces armées, la MONUSCO, pendant les 3 mois, a donné un résultat. Et à la suite de ce nouveau massacre, j'ai réitéré l'appel à la population pour dire, de la même manière que vous avez collaboré avec les forces armées et tous les services, il faut continuer à le faire parce que ces rebelles, finalement, nous surprennent là où nous ne pensons pas qu'ils pouvaient encore survenir. Donc c'est comme un réveil pour une population qui déjà offre sa collaboration aux forces de sécurité, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui le mariage qu'il y a entre population civile et forces armées et éléments de la MONUSCO, on sent que les résultats auxquels nous sommes arrivés constituent la résultante de cette très bonne collaboration. Voilà pourquoi j'ai réitéré l'appel. Et toute la population, quand vous voyez à Béni, territoire comme en ville, on sent vraiment que tout le monde est sidéré par cet effet surprise, parce que la confiance est totale au niveau des forces armées, la confiance est totale au niveau des forces de la MONUSCO. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on poursuive cette collaboration qui est, pour nous, le seul moyen qui peut nous permettre de faire face à ces terroristes qui veulent se parler d'eux, malgré les efforts menés par les éléments des forces armées et la MONUSCO.
Monsieur le gouverneur, vous avez parlé des 17 personnes qui ont été libérées. Et pouvez-vous nous donner les bilans exacts, n'est-ce pas, de ces massacres de mardi dernier?
Oui, d'abord, comme a dit votre collègue qui est basé à Béni, dans la nuit du mardi au mercredi, effectivement, ces assaillants se sont introduits dans ce vaste espace de Mayangos, où on a dénombré 20 personnes qui ont été tuées. Il y a une personne qui est venue mourir à l'hôpital général de Béni, qui tenait un moulin dans cette partie du territoire. Et dans leur fuite, ils ont dû aussi tuer sur la route entre Kamango et Mbaou, 3 autres personnes, ce qui donne un bilan provisoire de près de 24 morts. Mais comme il y avait une femme enceinte aussi, on a pu compter aussi les fœtus. C'est pourquoi j'ai dû donner le bilan général de 25 morts. C'est très triste que nous fassions le comptage de nos morts, parce que nous avions dû parler d'autres choses, comme des projets de développement qu'on est en train de réaliser. Malheureusement, ce sont les morts que nous sommes obligés de compter à la suite de ces actes barbares qui sont perpétrés par les IDF et alliés. J'ai dit alliés parce qu'il y a effectivement parmi beaucoup de personnes que nous avons arrêtées des éléments qui se révèlent être des enfants congolais qui pactisent avec les rebelles ougandais pour perpétrer les massacres sur le territoire de Beni.
Monsieur le gouverneur, ces énième massacres intervient dans un territoire où sont déployées d'importantes forces militaires dans le cadre de l'opération Sokola 2. Et, curieusement, depuis le mois d'octobre dernier, début de ces différents assassinats, ces forces n'ont jamais empêché, n'est-ce pas, ces différents massacres. Comment vous expliquez cela?
Je crois que nous devons comprendre que les terroristes sont localisés partout au monde. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez le 31 décembre 2014, lorsque j'ai fait mon message de fin d'année, j'ai demandé même à la communauté internationale de commencer à s'intéresser à ce qui se passe à Beni. On voit la mobilisation générale qui est faite sur Boko Haram, sur Charlie Hebdo, sur tout ce qui se passe, je ne sais pas, en Iran, en Afghanistan. J'ai fait un appel à la communauté internationale à condamner le silence qui, pour moi, est coupable. Parce qu'on ne doit pas faire une chose ailleurs et chez nous, on croit que c'est normal de voir 20-30 personnes tuées. Je crois que les Nations Unies, comme elles sont déjà engagées dans les opérations, elles se rendent compte de l'ampleur du problème. Cette question digne doit attirer l'attention parce qu'il y a quelques temps, nous avons arrêté sous le champ par les camps de nos forces armées, même des Somaliens sur le terrain. Donc vous comprenez que risque de se développer ici à Beni un trou noir, comme j'ai dit à le dénoncer plusieurs fois, que nous ne serons pas bouchés si des stratégies concertées, si des stratégies communes entre le gouvernement congolais et tous les partenaires ne sont pas mises en place. Pour que nous considérions ce problème comme un véritable problème qui peut agacer la région à partir de cette région de Beni.
Merci, monsieur le gouverneur. Révérend pasteur Gilbert Kambalé, vous êtes président de la société civile de Beni au Nord Kivu. Comment vous analysez ces nouveaux massacres? Vous venez de suivre, monsieur le gouverneur, qui dit qu'après concertation, n'est-ce pas, avec les services qui sont sur place, ils se sont rendus compte que ces rebelles, étant donné qu'ils se sentent acculés, ils sont à la recherche des vivres, n'est-ce pas, des moyens de vivre, et à cet effet, ils procèdent par ces moyens pour avoir de quoi leur permettre de vivre.
Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à saluer aussi le gouverneur, et M. Kibelbel, Nikez, qui sont les co-débatteurs de ce soir. Je pense que, M. Guy Maté, il y a lieu quand même de faire un état des lieux sur ces massacres. D'après notre monitoring, aujourd'hui, nous sommes à peu près 350 personnes massacrées. Et là, nous ne faisons pas allusion à ce que nous pouvons qualifier des chiffres noirs de la criminalité ou des massacres. Parce qu'il y a d'autres endroits comme à Vemba où le nombre de personnes massacrées reste controversé jusqu'à ce jour. Donc nous sommes certainement au-delà de ces nombres-là.
Depuis le mois d'octobre dernier.
Oui, donc ça ce sont en fait nos recherches et puis notre monitoring des organisations de la société civile. Donc nous estimons que c'est déjà trop comme un massacre. Comme le gouverneur vient de le dire, nous tous nous sommes vraiment exaspérés par tous ces massacres qui continuent et nous tenons, nous comme société civile, à présenter nos condoléances encore une fois aux familles qui ont été éprouvées et nous pensons qu'il est grand temps de pouvoir regarder en profondeur qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous avons eu même un dialogue social. Et là, on avait pensé que non, c'est fini cette fois-ci, mais voilà qu'on va déchanter bientôt parce que ce que nous attendions, justement, vient d'être brisé par ces massacres d'il y a à peu près 48 heures. J'aimerais également épingler une autre chose, c'est que il y a eu beaucoup de délégations. Nous ne pouvons pas minimiser cela. Beaucoup de délégations. Je me rappelle, par exemple, une délégation qui était venue des Nations Unies, du département de maintien de la paix, et qui était venue voir qu'est-ce qui se passe à Beni. Et je me rappelle que celle qui dirigeait la délégation avait dit exactement ceci, je cite, « Nous avons été envoyés ici par les Nations Unies pour voir ce qui se passe. Et nous n'avons rien à dire pour le moment, nous amenons seulement les rapports. » Et après eux, il y a eu des délégations également qui sont passées sous-régionales, comme la CIRGL, comme la SADEC. Ils sont tous passés. Et la MONUSCO, régulièrement, nous avons eu des rencontres. Mais ce qui est sidérant, c'est quoi? C'est que les massacres ne s'arrêtent pas. Et ça, c'est très inquiétant. Oui, vous l'avez dit, et même le gouverneur, avec toutes ses forces, il y a les opérations Sokola qui sont là. Il y a également la PNC que nous pouvons mettre en contribution. Il y a également, n'est-ce pas, la MONUSCO avec la brigade d'intervention. Et même, comme vous le savez, la MONUSCO a trois grandes priorités. Hein, et ces trois grandes priorités sont la protection des civils. En second lieu, la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. En troisième lieu, c'est l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre. Et donc ça, on peut lire dans Écho de la MONUSCO, ce magazine, numéro 31 de février 2014.
Oui, Révérend Pasteur, alors, oui. Vous qui êtes sur le terrain, vous de la société civile, à quoi peut-on attribuer ces massacres à répétition? Pourquoi, vous vous êtes même posé la question de savoir, pourquoi ces massacres ne s'arrêtent-ils pas?
Oui, justement, je pense qu'il y a question de voir qui sont ceux qui perpètrent ces massacres. Ça, c'est la première chose qu'il faut se demander. Aujourd'hui, il y a la piste des EDF Nalu. Mais on pense que ce ne sont pas seulement les EDF Nalu, mais ils doivent avoir leurs alliés. Parce que nous qui allons, par exemple, sur le terrain, il y a des rescapés qui vous disent que non, nous avons entendu des gens parlant telle ou telle autre langue. Et nous, nous disons que, donc, les EDF Nalu ne peuvent pas être seuls. Bien sûr, il y a de nos enfants égarés qui sont parmi les EDF Nalu. Et donc, nous pensons que le gouvernement congolais doit faire un effort supplémentaire pour mettre fin à cette situation. Parce que la population est exaspérée et pense qu'elle est laissée à son triste sort. Et nous, nous pensons que la population qui observe cette situation attend une chose, que le gouvernement congolais prenne à bras le corps sa mission régalienne de protéger la population et ses biens, mais également de protéger ses frontières. Comment expliquer que ces gens puissent quitter leur territoire et venir faire la loi ici? Et je me rappelle encore ce matin, d'ailleurs, sur la revue des presses, hein, le journal Palga, qui parlait de deux géants d'Afrique. Parce que le gouverneur vient de parler, justement, de Boko Haram. Il parlait de deux géants qui sont humiliés, donc le Nigeria et la République démocratique du Congo. Il faisait allusion à Boko Haram, mais aussi à la situation de Benin il y a 48 heures. Donc, je crois que les gens ont suivi cela le matin à la RFI. Et voilà. Ça nous inquiète tous.
Et vous avez dit qu'il faut, maintenant que le dialogue a été organisé et il n'a pas produit, n'est-ce pas, les effets pour lesquels il a été organisé, il faut voir en profondeur ce qu'il faut faire et voir aussi ceux qui sont à la base de ces massacres. Donc, même vous, de la société civile, vous qui êtes sur le terrain, vous posez la question de savoir qui sont à la base de ces massacres. Et il n'y a pas que vous, beaucoup d'analystes, apparemment personne n'arrive à identifier ceux qui sont à la base de ces massacres. Est-ce que ce n'est pas ça les problèmes fondamentaux? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier, c'est-à-dire que les FARDC sont en train d'affronter un ennemi qu'elles ne connaissent pas, un ennemi invisible. Est-ce que ce n'est pas ça les fonds du problème?
Bon, je crois que l'ennemi est identifié, mais peut-être la manière peut-être d'essayer de les traquer, de les neutraliser, n'est pas encore arrivée à la fin. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des EDF qui ont été réellement arrêtés. Il y a aussi peut-être des fils du terroir qui ont été arrêtés parmi eux. Et on a observé que réellement, ils sont là. Mais nous avions parlé l'autre fois, à l'autre dialogue intercongolais, nous avions dit ceci, qu'il y avait le problème géophysique qui se présente devant, disons, l'FRDC et même la brigade d'intervention, mais il y avait encore un autre obstacle, c'est l'obstacle sur la guérilla. Cette guérilla où on soumet l'FRDC et la brigade d'intervention à une guerre asymétrique. Et c'est ce que le gouvernement disait tantôt, il dit, bon, pendant que vous ne vous attendiez pas à quelque chose, mais ça arrive brusquement. Et c'est cela le problème. Il faut prévenir les événements au lieu de les subir toujours. C'est pas gai, et je crois que ce n'est pas bon tout le temps d'enterrer les morts, constater qu'il y a des morts, et puis on constate, et puis ça passe.
Non. Merci. Nikez Kibelbel, vous êtes directeur du journal Les Coulisses, basé à Beni au Nord Kivu. Énième massacre dans les territoires de Beni, votre analyse?
Oui, merci beaucoup. Je salue M. le gouverneur, je salue aussi le pasteur Gilbert de la société civile. L'analyse est à peu près la même que celle que les deux co-débatteurs ont fait, mais j'ajoute un autre élément. Nous avons assisté pendant presque le massacre, on commence au mois d'octobre, il y a eu accalmie. Et pendant l'accalmie, apparemment, l'État donne l'impression de faire la sieste. Parce que les FRDC sont au combat, ils ont arrêté des gens. Les services de défense et sécurité, les services de renseignement ont arrêté les gens. Mais ces gens ne sont jamais passés dans un procès public. Ce qui signifie qu'on n'a pas démantelé les réseaux. Le massacre aussi, une autre dimension de l'analyse, il faut définir Mayangos. Mayangos est réputé à la réputation d'une zone de violence et de contestation envers l'État. C'est une zone qu'on appelle une zone de cultivateurs, mais cette zone a contesté l'autorité de l'État depuis plus de 10 ans. Parce qu'elle estime que le territoire qu'elle occupe, c'est, disons que la population occupe, appartient à la population et non au peuple. Il y a eu des affrontements. À Mayangos, il y a des hommes armés qui ont affronté les gardes de parc avec des armes blanches comme avec des fusils dans les années 2000-2004. Donc, ces gens-là, on ne les a jamais démantelés. Il faut aussi faire un recensement de la population de Mayangos. Parce que Mayangos, aujourd'hui, est semblable à une carrière minière où on trouve les populations venant de partout, qu'on appelle abusivement ou je ne sais pas abusivement des cultivateurs. Donc, lorsqu'on fera le recensement pour savoir qui est à Mayangos et qui fait quoi, on pourra comprendre. Parce que les tueries se font à la périphérie de la ville de Beni, donc à Mayangos. Et les tueurs ou les massacreurs, aussitôt qu'ils commettent leur forfait, ils entrent dans le parc. Et le parc, par définition, est inaccessible. Donc ça, c'est un élément essentiel à ajouter. Le troisième élément, le pasteur Gilbert a parlé du dialogue social. Mais le dialogue social qui a eu lieu ici, le diagnostic avait été fait en disant que les EDF Nalo, dont les EDF Ougandais, travaillent avec les enfants du milieu. Malheureusement, au dialogue social, on a évité de citer ceux qui sont impliqués, les Congolais qui sont impliqués dans cette instabilité. Ce qui fait que quand on parle un peu à l'impersonnel, personne ne se sent concerné et effectivement, les massacres continuent.
Voilà. Vous avez dit que Mayangos, où a eu lieu ces massacres, est réputé comme étant une localité qui conteste l'autorité de l'État, mais on sait que depuis le mois d'octobre dernier, lorsque les massacres ont commencé, il n'y a pas que Mayangos qui a été affecté, c'est plusieurs localités du territoire des Beni.
Oui, effectivement, c'est plusieurs localités. Mais toutes les localités, avant d'abord que les massacres ont lieu à la périphérie des Beni. Donc vous avez que Mayangos, vous avez Ngadi, c'est pratiquement la périphérie de Beni. C'est vrai, il y a les ADF Nalu. Mais si nous disons que les ADF Nalu viennent attaquer Beni, cela signifie que les FRDC n'ont rien fait, les FRDC et la MONUSCO. Alors que nous savons que les FRDC et la MONUSCO ont fait un travail. C'est vrai, l'ennemi est éparpillé, mais lorsqu'on ne tient pas, on n'insiste pas sur la dimension locale. Je vous rappelle aussi que la même société civile en 2012 a fait état d'une douzaine de groupes armés locaux dans le territoire de Beni. Ces groupes armés, ils sont où? Ils ont déposé les armes chez qui? Donc, tous ces phénomènes, si on les analyse froidement, on peut trouver qui est à la base de tous ces massacres, au lieu simplement de pointer les ADF.
Oui, Monsieur Nikez Kibelbel, à votre avis, qu'est-ce qui peut pousser les assaillants à pouvoir choisir les territoires des Beni pour perpétrer ces forfaits? Pourquoi c'est seulement les territoires des Beni?
Les territoires des Beni, vous savez, nous vivons depuis plus de 20 ans une criminalité transfrontalière. Ceux qu'on appelle les ADF Nalu, ils sont venus de l'Ouganda. Ils ont trouvé à Beni, dans le territoire de Beni, un oasis de paix. Alors, ils ont vécu pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Ils ont cohabité avec la population locale. Ils se sont mariés à la population. Donc, choisir le territoire de Beni signifie simplement que lorsqu'on veut casser l'ordre qu'ils avaient établi, l'ordre qui ne répond pas à l'État, parce que c'est l'État qui veut casser l'ordre, ces gens-là, naturellement, ils doivent se révolter contre l'État, ils doivent poser des actes de terrorisme, comme le gouverneur et le pasteur l'ont souligné, une guerre asymétrique Parce que la guerre asymétrique, ce sont des attaques par surprise. Et là, l'armée ne peut rien faire. Donc, nous vivons une zone, une criminalité transfrontalière, parce que les Ougandais, les Somaliens, les Kenyans, ils arrivent ici, vous savez. Il est même arrivé des bandits qui sont entrés à Beni tuer, des bandits ougandais, kenyans, ils sont à Butembo, ils ont tué, ils sont repartis. Donc, il y a cette criminalité transfrontalière qui déstabilise totalement la région de Beni, la région de Rwenzori, comme on appelle.
Monsieur Nikez, les mêmes modes opératoires depuis le début de ces massacres, ils opèrent avec des machettes, opèrent dans des zones où se déroulent les opérations militaires, opèrent dans la quiétude et après ils disparaissent sans pour autant laisser des traces. Cette façon d'opérer ne constitue-t-elle pas un message à votre avis?
Mais la façon d'opérer, bon, je ne dirais pas que c'est normal. D'abord, ces gens, ils évitent le corps à corps avec les FRDC. Donc, ils ne peuvent pas utiliser les armes à feu. Ils utilisent les armes blanches. Dans une guerre asymétrique, naturellement, ils tendent des pieds, c'est ça des embuscades. Alors, ils prennent les FRDC à contre-pied et on constate simplement les dégâts le lendemain ou bien et 2-3 heures après. Donc, le mode opératoire qu'ils ont choisi, c'est effectivement pour montrer que, je dirais pratiquement qu'ils sont faibles, mais ils veulent montrer qu'ils ont quand même une puissance, un degré de nuisance assez élevé.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Goma au Nord Kivu.
Ingénieur Patrick Baloumé de Goma au Nord Kivu. Il n'y a même pas une semaine que le chef d'état-major général des FRDC était à Beni avec des généraux pour lancer la traque des œufs de l'air et aussi visiter et donner la morale aux troupes FRDC en place. À son départ, de mettre encore à Beni. Nous entendons même des déclarations du gouvernement par la bouche de son porte-parole, M. Mende, qui dit avoir chassé de loin les rebelles et occupé des zones où ils opéraient leurs tueries et leurs massacres. Alors on se pose des questions de savoir, est-ce que ce que ce gouvernement nous parle chaque fois, faut-il y croire encore ou pas? Est-ce que ce gouvernement, en tant que technicien de la RDC en matière de questions de sécurité du pays, est-il capable de sécuriser ce pays et la population? Si oui, a-t-il vraiment identifié les vrais problèmes, les causes pour lesquelles cette population innocente est en train d'être massacrée? A-t-il aussi identifié les vrais auteurs de tout ça?
Oui, monsieur le gouverneur.
Oui, merci beaucoup. Je crois que M. Baloum est parmi les gens qui ont loué les forces armées pendant cette accalmie de 3 mois. Et que donc, ce qui vient d'arriver ici ne doit pas l'amener à dire une chose à son contraire. Je pense que le chef d'état-major qui était dans la région est venu rehausser le moral de la troupe. Je ne peux pas croire que l'on dise que le chef d'état-major de l'armée française est faible parce qu'il y a une attaque sur le général satellite Charlie Hebdo avec 17 morts. Je ne crois pas que toute l'armée nigériane soit faible parce que simplement il y a cette attaque de Boko Haram. Nous devons analyser objectivement cette question de terrorisme qui veut s'installer à Beni. Il ne s'agit pas d'une faiblesse de notre armée, il ne s'agit pas d'une faiblesse de notre chef d'état-major qui est passé ici, mais il s'agit d'actes terroristes qui sont perpétrés dans la zone. La mission de l'armée, c'est de réduire effectivement cette propension qui nous amène vers la grande criminalité. Vous savez, c'est parce que nous ne donnons pas les bilans de nos éleveurs de forces armées qui sont morts sur le champ de bataille depuis le début des opérations en janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est en centaines, nous ne sommes pas autorisés à les dire devant la radio Okapi. Mais je crois que si ils nous étaient autorisés de les dire, chaque civil là où il se trouve, il aurait du respect et de la reconnaissance envers les éléments de nos forces armées qui sont dans des conditions très difficiles à l'intérieur des forêts pendant 10 jours, pendant 15 jours, pendant 100 jours en train de rechercher les criminels. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir du respect envers nos éléments de forces armées qui se battent jour et nuit. C'est vrai, c'est leur serment. Ils ont prêté serment pour mourir pour la cause commune. Mais nous devons reconnaître que c'est des vaillants hommes, c'est des vaillants soldats, c'est des héros qui se battent pour que nous retrouvions tous la paix. Des centaines de morts parmi les soldats se sont comptés, mais aujourd'hui nous sommes en train de les voir poursuivre cet élan et sécuriser la population. Nous avons fait 3 mois sans qu'il n'y ait un seul cas signalé dans les territoires de Beni. Ce qui est arrivé ici ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous amener à menacer même la volonté de nos éléments de forces armées. C'est pourquoi j'ai lancé un appel pour dire, vous tous, population civile, vous tous, hommes œuvrés de prix de paix, hommes de bonne volonté, hommes de bonne foi, femmes, jeunes et vieux, soutenons nos éléments de FARDC pour que nous puissions dénoncer le moindre passage des personnes qui se révèlent être suspectes. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu immédiatement à Beni, à la moindre information, pour qu'on relance avec les FARDC, la MONUSCO, les autorités civiles, des stratégies pour contrer ces massacres de manière à ce qu'ils ne puissent pas se perpétrer. Parce qu'à l'absence de stratégies concertées, on peut encore assister à un cycle de violence. C'est donc la raison de ma présence ici, avec d'autres collaborateurs, pour que nous puissions joindre nos idées à celles des forces armées, à celles de la police, à celles des services, et ensemble, on peut stopper le plus possible ces massacres. Donc voilà, M. Baloumé devrait comprendre que nos forces armées, c'est déjà qu'il faut louer pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour que la paix revienne chez nous.
Merci, Monsieur le Révérend Pasteur Gilbert Krambalé. Vous avez suivi Monsieur Nikez Kibelbel, n'est-ce pas, qui dit que à l'issue du dialogue social qui a été organisé au mois de décembre dernier, vous avez considéré certaines choses comme étant tabou parce que vous avez refusé, vous de la société civile, de citer les noms des personnes qui seraient, n'est-ce pas, qui partiseraient avec ces rebelles ougandais. Alors que lui estime qu'il faut mettre un accent sur la dimension interne de la question.
Merci beaucoup pour la question. Je m'inscris en faux pour ce qu'il dit, parce qu'il n'était pas dans la réunion, parce que les journalistes ne veulent pas y entrer. Moi, j'y étais. Et je crois qu'il n'y avait pas de gants. Les gens s'étaient parlé ouvertement, et je crois que les gens étaient même cités dans ces dialogues. Mais il faut se demander, est-ce que les gens ont mis en application les recommandations. C'est ça le grand problème. Mais moi, je pense que il y avait, en fait, les gens qui s'étaient dit la vérité, parce que toutes les parties étaient prenantes. Il y avait les chefs coutumiers, il y avait les politiciens de toutes tendances, il y avait la société civile, et je pense que chacun avait dit ce qui était sur son cœur, et il l'avait exprimé librement et sans tabou.
Au mois de janvier dernier, la société civile du Nord Kivu avait établi un bilan positif de la situation sécuritaire dans cette province un mois après la tenue du dialogue social. À quoi avez-vous attribué la calmie observée pendant cette période, la période allant du 20 décembre 2014 au 20 janvier 2015 dernier?
Bon, moi je crois que la situation est tout à fait claire. Quand il n'y a plus de massacres, il y a la calmie. Et je crois qu'on peut conclure que ça va. Mais,
et à votre avis, la calmie était due à quoi? Pourquoi il n'y avait plus de massacres pendant cette période?
Bon, je crois qu'il y a certaines stratégies qui étaient mises en application pour, par exemple, faire une ceinture autour de Beni et dans Beni.
Et quelles sont ces stratégies?
C'est-à-dire faire une ceinture, par exemple, autour de Beni. Et les villages environnants Beni, il y avait des militaires, tels que les opérations Sokola, qui étaient allés, se cantonner dans tous ces milieux-là. Au-delà de cela, nous pouvons parler aussi du couvre-feu qui a porté ses fruits. Malgré quelques dérapages où on a trouvé que certaines personnes, on a ravi des téléphones, par exemple, ou par exemple certaines personnes ont été séquestrées illégalement, je pense ici à Maman Balassa, par exemple. Mais à part cela, dans l'ensemble, nous pensons que il y avait un résultat positif. Donc ce qui vient d'arriver surprend plus d'une personne, parce que nous sommes en fait dans cette guérilla. Nous pensons que réellement c'est une guerre asymétrique à laquelle nous faisons face, et donc il faut une formation de la guérilla et du terrorisme pour peut-être contrer tous ces éléments qui continuent à perturber la quiétude de la population. Mais la population, franchement, est exaspéré.
Pasteur Gilbert Kambalé, le gouverneur Julien Paluku appelle une fois de plus la population à collaborer avec les FARDC, la police et les services de sécurité. Je lui ai posé cette question, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'il lance ces messages. Comment vous analysez cette assistance-là de la part du gouverneur qui demande toujours à la population de collaborer avec les services de sécurité?
Oui, moi je crois que c'est son rôle, hein. Il encourage la population à collaborer, mais je crois que la population le fait déjà. Mais là où il y a les dangers, c'est quoi? C'est que les massacres continuent son bonhomme de chemin. C'est ça le grand problème. Et la population attend quoi? La population attend qu'on mette fin totalement à cette histoire des massacres. Si cela n'est pas fait, et donc la population risque de se prendre en charge, c'est-à-dire aller en brousse, aller chercher Seydief Nalou. C'est ça, en fait, la population, c'est que la population attend. Et il y a certaines personnes qui passent au bureau de la société civile, qui disent, nous voulons aller chercher ces Seydief Nalou en brousse. Alors, nous leur disons, alors, attendons, voyons les autorités, parce que ce n'est pas le travail de la population d'aller poursuivre les Nalou. Il y a les FA, les païens FARDC, il y a la police, il y a aussi la brigade d'intervention qui doit faire ce travail. Mais quand il ne fait pas ce travail convenablement, je crois que la population risque d'arriver à son plan pour se prendre en charge.
Nicolas Kibelbel, nous avons une réaction qui vient, en fait, pour vous, qui vient de la République de Tanzanie.
Charles Tambale Matayanga, de Rwanda, et je suis natif du secteur de Beni, notamment de Rwanda. Adieu. Si tu es encore vivant avec les rescapés, oh mon Dieu, manifeste-toi et sors de tes enfants. Le gouvernement de la RDC. Si les auteurs sont des gens qui cherchent le pouvoir, de grâce à les élections qu'ils gouvernent. Si les auteurs sont des jeunes désœuvrés, de grâce, créer des industries ou des emplois à Beni, qu'ils gouvernent. Si ce sont des étrangers, de grâce, et de l'effort à les faire retourner chez eux sans aucune autre forme de procès. Parce que la force, vous l'avez, aux auteurs des massacres, Dieu dit que lui, il vous pardonne d'avance, de grâce, pardonnez aussi à vos adversaires et surtout encore à ces innocents.
Mais qu'est-ce qui est belle?
La connexion n'était pas bonne. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, résumer en un mot?
Oui, il dit à Dieu, si tu es encore vivant avec les rescapés, oh mon Dieu, manifeste-toi et sauve tes enfants. Il dit au gouvernant de la RDC, si les auteurs sont des gens qui cherchent le pouvoir, des grâces, hâtez les élections, chers frères. Il dit, si les auteurs sont des jeunes désœuvrés, des grâces, créez des industries ou des emplois à Beni. Si ce sont les étrangers, des grâces, aidez-les fort à les faire retourner chez eux sans aucune forme de procès. Voilà.
Oui, le problème ici dans la contrée, d'abord parlant des ADF, les gens ne comprennent, bon, je dirais pas qu'ils ne comprennent pas, mais les ADF c'est une milice islamiste. Ça c'est d'abord un problème réel. Et malheureusement, cette milice a eu le temps d'endoctriner beaucoup de nos jeunes, beaucoup de Congolais qui ont adhéré. Il y a des gens qui ont adhéré, il y a des sympathisants, et la milice a travaillé avec tous ces gens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la zone a connu des rébellions. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui ont embrassé, caressé la Kalachnikov. Le DDRR n'a pas réussi à bénir. Beaucoup de jeunes se sont auto-démobilisés et ils ont gardé leurs armes. Tout ça, c'est des problèmes. J'ai parlé tantôt de Mayangos. Mais il y a des députés, il y a des gens qui se sont fait élire en promettant aux cultivateurs de Mayangos qu'ils leur donneraient cette partie. Ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas demander au seul FRDC, à la MONUSCO de faire tout, lorsque les élus ne rentrent pas. Dire à la population, soyez ensemble avec les FRDC. Parce que, observez simplement que depuis qu'il y a massacre, on enregistre des déclarations depuis Kinshasa, mais les élus ne descendent pas en ville. Nous avons 10 ou 12 députés qui devraient venir parler aussi à la population. Parce que la partie congolaise qu'on est en train de sous-estimer, mais c'est celle-là qui constitue aussi les grands rouleaux d'étranglement pour les FARDC. Les massacres se commettent dans la population jusqu'à aujourd'hui. On n'arrête personne. Et on parle des ADF parce qu'on sait que les ADF ne sont pas identifiables. Mais nous disons simplement ceci, que
si la population adhère au discours d'accompagner totalement les FRDC, la population peut arrêter les gens qui sont à la base de ça. Et nous revenons au dialogue social. Nous disons qu'au dialogue social, on a parlé en parabole, on n'a pas cité les noms. Mais même si nous n'avons pas participé, nous avons les recommandations. On a fait des recommandations, pratiquement on n'a pas voulu pointer du doigt les responsables. Et à ce moment-là, on ne rend pas service aux forces de sécurité et de défense.
Monsieur Nicaise,
le problème, le mal, il est profond. Oui,
oui, qu'est-ce faut-il pour le retour d'une paix durable dans cette partie du pays? Il y a des analystes, n'est-ce pas, qui proposent que l'accent soit mis d'abord sur l'investigation, parce qu'il faut commencer par identifier les ennemis, leurs sources d'approvisionnement, leurs commanditaires, et c'est seulement de cette manière que l'on pourra mettre en place des stratégies qui sont efficaces.
Effectivement, parce que ce qu'on ne souligne pas, c'est que l'ennemi a apporté un business ici à Béni, dans la région, et il faut démanteler le réseau. On ne peut démanteler le réseau que quand il y a collaboration. Ça, c'est de un. Au niveau des FRDC, des services de défense et sécurité, lorsqu'on arrête, parce qu'on ne peut pas nous dire que durant les 3 mois, on n'a arrêté personne. Lorsqu'on arrête les commanditaires ou ceux qui ont participé, il faut qu'il y ait des procès publics. Quel est l'avantage du procès public? C'est de découvrir certaines personnes qui sont cachées, et à ce moment-là, on peut donner une pédagogie à la population. Mais regardez, depuis 3 mois qu'il y a eu massacre, on n'a jamais tenu, on ne sait pas si on a arrêté des gens. On ne peut pas dire qu'on n'a jamais arrêté des gens. Donc il faut qu'il y ait un procès public, il faut effectivement qu'on puisse arriver à désigner ceux qui participent à cette entreprise criminelle.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Qu'est-ce faut-il pour les retours d'une paix durable dans cette partie du pays? Nous apprenons que vous vous êtes opposé, n'est-ce pas, à toute idée d'instaurer un nouveau couvre-feu dans la zone, alors que les populations disent que pendant ces couvre-feux, il y avait quand même une certaine accalmie. Pourquoi vous êtes opposé à l'instauration des nouveaux couvre-feux?
Bon, avant d'y arriver, je vais devoir répondre au pasteur Gilbert qui a dit que le massacre continue sur le nom de chemin. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quand même 3 mois. J'aurais préféré qu'il dise qu'il y a eu des nouveaux cas de massacre. Ça, c'est de un. De deux, l'homme qui a pris la Tanzanie qui a dit qu'il n'y a pas d'emploi, c'est pourquoi les gens sont dans la brousse. J'ai dit non, mais dans les bandes, il n'y a pas aussi d'emploi. Dans les bas, il n'y a pas d'emploi. Mais les enfants de ces deux provinces ne sont pas allés contre leur propre pays. Donc, c'est une précision que je voulais donner à ces deux intervenants. Et de trois, par rapport à mon refus de reconduire le couvre-feu, c'est parce que je suis arrivé du souci de ne pas voir l'État incapable, finalement, devant les drames auxquels face la population. Il ne faudrait pas que nous, qui gérons l'État à un certain niveau, nous apparaissions comme si nous sommes dans l'incapacité de sécuriser la population en recourant à des méthodes comme celle du couvre-feu. Pourquoi j'ai estimé que, au lieu que nous reconduisions la mesure du couvre-feu, il faut que l'armée, la police, les services, nous tous ensemble, associés à la dénonciation que ferait la population, nous puissions joindre nos efforts pour dénicher l'ennemi.
Monsieur le gouverneur.
Je crois que c'est qu'il.
Monsieur le gouverneur.
Oui.
Bon, nous sommes à la fin de l'émission. Juste un mot en Swahili à l'endroit de ces populations de Beni. Un message bref.
Tusiweze kukamata silaha kuwaza ya kwamba ni silaha ambayo tutatetea amani. Hiyo ndiyo message kubwa natoa kwa wakaji wote wa North Kivu.
Merci, Reverend Pasteur Gilbert Kambale. Un mot en guise de conclusion.
Nous pensons que le gouvernement a la force suffisante pour mettre fin à ces massacres. Et donc, qu'il y ait ces mariages toujours entre la population, les FARDC, les autorités politico-administratives, pour conjuguer ensemble, en fait, qu'on mette fin à ces massacres.
Nicaise Kibelbel, votre conclusion?
La population doit appuyer les FRDC et l'État doit organiser des procès publics pour tous ceux qui sont arrêtés ou soupçonnés dans ces criminalités.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Manzangu qui était à la technique, Alain Rung, Kelly Koukouté et Berry Franklin Michaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.